Que le nom du Seigneur soit béni. Il est digne d'être loué, d'être adoré, d'être exalté. Il en est digne. Car lui seul a donné sa vie pour nous. Lui, le Saint, a donné sa vie pour des pécheurs. Lui, le juste, a donné sa vie pour des injustes. Lui, l'innocent, a donné sa vie pour des coupables. Quel amour! À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'aimerais que nous puissions méditer ensemble sur, j'allais dire, la première vérité de l'Évangile. Cette première vérité de l'Évangile est comme le premier fondement de l'Évangile. C'était le premier mot que Jésus a employé lorsqu'il a commencé son ministère. C'était le premier mot que l'apôtre Pierre a employé lorsqu'il a prêché l'Évangile le jour de la Pentecôte. C'était le premier mot que les apôtres ont utilisé lorsqu'ils allaient partout dans le monde et prêchaient la bonne nouvelle. La première vérité de l'Évangile est celle-ci, la repentance. La repentance est une vérité fondamentale dans notre vie chrétienne. Nous vivons un siècle où nous n'aimons pas entendre parler de repentance. On entend beaucoup parler de « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais on ne veut pas entendre dire que nous avons à nous repentir pour être sauvés. Alors le titre de mon message sera un peu comme celui-ci, « pas de vie nouvelle sans vraie repentance ». Pas de pardon sans vraie repentance. Pas de salut sans vraie repentance. Nous allons le voir, c'est le premier fondement de la construction de la maison du salut. Et vous savez, quand les fondements sont branlants, quand il manque un fondement à une maison, alors vous avez beau bâtir ce que vous voulez dessus, la maison sera toujours branlante. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Et lorsque les vents de l'opposition souffleront sur cette maison, lorsque la pluie de la persécution soufflera sur cette maison, lorsque l'orage soufflera, la maison ne tiendra pas, parce qu'il n'y avait pas le fondement principal qui est la repentance. Et j'aimerais qu'on voit ensemble précisément ce qu'est la repentance, selon la parole de Dieu. C'est un message très important, parce qu'il n'y a pas de salut sans repentance. Pas de pardon sans repentance et pas de vie nouvelle sans repentance. La repentance, c'est en somme la vie de quelqu'un qui est complètement changé. C'est abandonner son passé, son péché, pour se soumettre à Jésus-Christ et vivre une vie entièrement nouvelle. Un jour, un homme est venu voir le fameux évangéliste D.L. Moody, un Américain, un évangéliste du siècle dernier aux USA, qui a amené des milliers d'âmes au Seigneur. Et un jour, un homme est venu le voir, et cet homme était un peu titubant comme ça. Il avait bu un petit peu. Et il vient saluer l'évangéliste en lui disant, « Oh, je suis content de vous voir, monsieur l'évangéliste, c'est merveilleux, je suis si content de vous voir. » « Je suis un de vos convertis, dit-il. »« Comment ? Vous êtes un de mes convertis ? » ?»« Ah, je comprends, dit-il. »« Vous vous êtes converti à moi, c'est pour ça que vous buvez encore, vous êtes toujours saoul. »« Si vous vous étiez converti à Jésus-Christ, vous ne seriez plus saoul. »« Vous ne seriez plus ivrogne. » »« Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent convertis, mais dont la vie n'est pas changée. Quelqu'un qui se dit converti, et dont la vie n'a pas changé, je ne veux pas dire qu'on est parfait, mais il y a un changement par rapport à son passé. Il y a une coupure par rapport à son passé, parce que c'est une nouvelle vie qui commence. S'il n'y a pas ce changement, c'est que nous ne sommes pas sauvés. C'est que nous ne sommes pas sauvés. D'où l'importance de bien connaître ce que veut dire se repentir. Sinon, nous risquons de devenir des gens religieux. D'ailleurs, la religion, c'est cela. Les gens religieux, avez-vous remarqué, avec les gens religieux, ils vont à l'église toute leur vie. Mais toute leur vie, ils sont les mêmes. Ils ne changent pas. Si l'un était buveur, il continue de boire. Si l'un est menteur, il continue de mentir. Si l'un est grossier, il dit des jurons, il continue de jurer et d'être grossier. Et ça peut durer toute la vie. S'il y en a un qui a la main un peu longue, il continue. Ah, mais il vole peut-être un peu moins maintenant. Avant, dira-t-il, je volais un bof, mais maintenant je vole seulement un œuf. Mais il y a le proverbe qui dit, qui vole un œuf, vole un bof. Ah mais, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont les mêmes. Et mes amis, la vie chrétienne, c'est avant tout un changement de vie, n'est-ce pas vrai? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et si les autres ne peuvent pas aussi observer un changement dans ta vie, il faut se demander s'il s'est passé quelque chose. On doit voir ce changement, sinon on a eu la foi, mais sans repentance. Et il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, qui ont la foi, mais sans repentance. Ils croient au Seigneur Jésus, mais ils ne se sont pas repentis de leurs péchés. Et ils vivent deux vies, une vie soi-disant avec Dieu et une autre vie dans le monde. Aucun changement. Un jour, on a demandé, c'était une monitrice d'école du dimanche, qui a demandé aux enfants un petit peu à qui ils voulaient ressembler. Vous savez, d'après dans Luc 16, il y a l'histoire du mauvais riche et de Lazare, n'est-ce pas? Alors il leur a demandé aux enfants à qui ils voulaient ressembler. Au mauvais riche, qui faisait bruyante vie, joyeuse vie, il mangeait, il s'amusait, il faisait beaucoup de choses, ou à Lazare, qui était le pauvre et qui après est allé au ciel. Enfin, il n'a pas été au ciel parce qu'il était pauvre. Le mot Lazare veut dire « Dieu est mon secours ». Et en cela, ça voulait dire que Lazare avait mis sa confiance en Dieu pour être sauvé, dans le Sauveur. Et alors, les enfants ont réfléchi un petit peu. Et il y en a un qui a levé la main et qui a dit « Zèle, moi j'ai la réponse ». Alors il a dit, le petit gamin, « Moi je voudrais ressembler au mauvais riche pendant sa vie ». Pendant sa vie, je voudrais me ressembler au mauvais riche. Je voudrais avoir beaucoup de choses, vivre tranquillement, même sans me soucier de Dieu. Je veux vivre comme ça. Mais à ma mort, je voudrais être comme Lazare. Autrement dit, il voulait vivre les deux vies et quand même aller au ciel. Il voulait vivre sur la terre comme quelqu'un qui n'était pas chrétien. Mais à sa mort, il voudrait quand même que Dieu l'accepte au ciel. Donc, autrement dit, il voulait croire, mais sans se repentir, sans changement. Il y a donc là, mes amis, quelque chose de très important que nous devons découvrir. Et pour que notre vie chrétienne soit une vie victorieuse. Amen. Une vie victorieuse. Cette repentance est importante. Et nous allons voir quelques versets d'abord pour vous montrer l'importance de cela. D'ailleurs, Marc chapitre 1, verset 1, verset 15. C'est le Seigneur Jésus qui commence son ministère. Marc 1, 15, Évangile de Marc, chapitre 1, verset 15. Voici les premières paroles de Jésus quand il a commencé son ministère. Le temps, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Alors quel était son message? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. voyez, où le premier message de Jésus, c'était « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Avant de croire, il fallait que les gens se repentent. Nous allons voir tout à l'heure ce qu'est la vraie repentance. C'est important. Ça, c'est donc le Seigneur qui le dit. Ensuite, il y a un autre passage dans Actes 20, 21, c'est l'apôtre Paul. Voici ce qu'il dit. L'apôtre Paul, partout où il allait prêcher l'évangile, voici ce qu'il dit. Voici, vous savez que je n'ai rien caché de ce qu'il vous était utile et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs comme aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous ? Ici, deux vérités importantes. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils croient au Seigneur Jésus, mais qui ne se sont pas repentis de leurs péchés. Et c'est pourquoi il n'y a pas de changement de vie. Et l'apôtre Paul, partout où il allait, il prêchait la repentance. Aux Juifs comme aux Grecs. Aux gens religieux. Les Juifs, c'était les gens religieux. Les gens religieux aussi ont besoin de se repentir. Comme les Grecs, les intellectuels. Les savants, ceux qui pensent tout savoir. Et Paul leur disait, vous devez vous repentir et croire ensuite au Seigneur Jésus. Ensuite, un autre passage. La repentance, c'est un commandement divin. Acte 17, juste un petit peu avant. Acte 17, 30. La repentance est un commandement divin. Ce n'est pas une option. Voyez-vous, ce n'est pas facultatif. Pour dire, oh, mais moi, je me repens quand j'ai envie, c'est pas si important que cela. La repentance n'est pas facultative, mes amis. La repentance est un commandement de Dieu. Alors, acte 17, 30, c'est de nouveau l'apôtre Paul qui parle et qui dit, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voyez-vous ici le commandement ? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'un jour, ils seront jugés par Jésus-Christ. Et s'il n'y a pas de repentance, eh bien, la personne sera perdue. Voyez-vous, acte 17, 30. Et ensuite, nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens 1, 9. Nous voyons comment les premiers chrétiens s'étaient convertis. Alors, nous lisons dans 1 Thessaloniciens 1, 9. Le témoignage des premiers chrétiens, comment ils se sont convertis. Voici ce qu'il est dit. « Car on raconte auprès de vous comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. » Voyez-vous ici, nous voyons comment les premiers chrétiens se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles, voyez-vous, pour ensuite servir le Dieu vivant et vrai. Voyez-vous, il y avait l'abandon des idoles, donc de toute une vie passée, vécue loin de Dieu, et ensuite se tourner vers Dieu pour le suivre en nouveauté de vie. N'est-ce pas vrai? Nous voyons cela, c'est très très important. Et je pourrais encore vous donner d'autres passages, mais nous allons nous arrêter là maintenant concernant ces passages. Alors, l'apôtre Paul lui-même, l'apôtre Pierre aussi, je vous l'ai dit, dans Acte 2, verset 38, sauf erreur, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a dit ? « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Repentez-vous » Vous voyez, c'était encore une fois la repentance. Maintenant, vous allez dire, mais qu'est-ce que la vraie repentance ? Nous allons d'abord voir ce que la repentance n'est pas. Parce que dans ce domaine-là, beaucoup de gens pensent s'être repentis, mais finalement, ils ne se sont pas repentis. C'est très important, très important. Alors, premièrement, la repentance n'est pas faire pénitence. Beaucoup de gens confondent repentance et pénitence. Vous allez dire, quelle différence entre la pénitence et la repentance? Eh bien, voilà la différence. En faisant pénitence, on confesse son péché, parce qu'on réalise qu'on a péché, mais on ne l'abandonne jamais. On confesse toujours, on demande pardon, mais on n'abandonne jamais son péché. On peut même pleurer sur son péché, on le confesse, mais on ne l'abandonne jamais. On fait pénitence. Oh, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur. Et on s'en va et on continue la même chose. Ça, c'est faire pénitence. C'est confesser sans abandonner son péché. Tandis que la repentance, c'est confesser son péché avec la décision de l'abandonner. Amen. Et en cela, il y a l'exemple de Judas et de Pierre. Vous savez, Judas. Judas, s'il était revenu au Seigneur, s'il s'était repenti de tout son cœur, le Seigneur lui aurait pardonné. Mais il n'a fait que pénitence. Il a réalisé qu'il avait livré celui qui était juste et saint. Et il a eu du remords. Mais au lieu d'aller auprès du Seigneur pour lui demander vraiment pardon, et qu'il ne recommencerait plus et qu'il voulait vraiment changer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réalisé qu'il avait mal fait. Il est allé à un endroit et il est allé se pendre. Il a fait pénitence, mais il ne s'est pas repenti. Tandis que Pierre, qui a renié le Seigneur, il a renié le Seigneur devant une jeune fille, auprès du feu, alors que le Seigneur était en train d'être questionné par les sacrificateurs et par les autres. Une jeune fille était là, s'est adressée à Pierre et lui a dit, « Toi, je te connais, tu étais aussi avec ce Nazaréen. » Tu étais avec ce Nazaréen, ce Jésus. Je te reconnais à ton accent. Tu as un accent spécial. Je te reconnais. Et Pierre a dit, non, je ne connais pas ce Jésus dont tu parles. Vous vous rendez compte? Pierre qui a suivi le maître pendant 3 ans, qui a vu faire des miracles. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Et là, devant une gamine de rien du tout, il renie son maître. Et à 2 reprises, il renie son sauveur. Et le Seigneur lui avait dit, avant que tu me renies, 2 fois, le coq chantera 3 fois. Et au moment où il a renié 2 fois, le coq a chanté une dernière fois. Et quand il a entendu le coq chanter, il s'est souvenu des paroles du Seigneur qui lui avait dit qu'il allait le renier. Et quand il a entendu cela, son cœur a été profondément touché. Il a tout à coup réalisé le mal qu'il avait fait. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il sortit dehors et il pleura amèrement. Autrement dit, il y a eu en lui une profonde repentance parce que cela, plus jamais, ça lui est arrivé, n'est-ce pas vrai? Il a été prêt même jusqu'à donner sa vie pour son maître. Mais plus jamais il a renié son sauveur. Plus jamais il s'était sincèrement repenti. Voyez-vous la différence entre la pénitence et la repentance? Par la pénitence, on peut continuellement être attristé sur son péché, mais sans l'abandonner. Tandis que faire repentance, c'est dire « Seigneur, j'ai mal fait et j'abandonne mon péché. Je m'en détourne. » Et je veux te suivre de tout mon cœur. Amen. Deuxièmement, ce que n'est pas la repentance, c'est la repentance n'est pas avoir du remords aussi. N'est pas avoir un sentiment de culpabilité. Bien souvent, les gens pensent que parce qu'ils ont du remords et qu'ils se sentent coupables, qu'ils se sont repentis. Ce n'est pas ça la repentance. On peut se sentir coupable et encore ne jamais se repentir. N'est-ce pas vrai? On peut dire « Ah, mais je suis pécheur, je me sens coupable. » Mais cela ne veut pas dire qu'on se soit repenti. Ça ne suffit pas de dire « Je me sens coupable. » Tant de gens se sentent coupables, mais ils ne se repentent jamais. Vous allez leur poser des questions. « Êtes-vous pécheur ?» Oui, il y en a qui diront « Mais bien sûr, je suis pécheur. » Mais jamais ils ne se repentent, ils ne changent jamais de vie. Voyez-vous donc, sentir cette culpabilité n'est pas suffisante. Ce n'est pas la vraie repentance. Troisièmement, encore un autre,
point. La repentance n'est pas le regret d'avoir fait une mauvaise chose. Souvent, quand on a fait une mauvaise chose, une mauvaise action, et qu'on le réalise, on pense que c'est cela la repentance. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de réaliser qu'on a fait quelque chose de mal. Il faut aller plus loin. Beaucoup de gens réalisent qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais ils ne changent pas. Ils continuent toujours la même chose. Voyez-vous, c'est un point très important. Donc, réaliser avoir fait quelque chose de mal, ce n'est pas cela la vraie repentance. Il faut que ça aille plus loin. Quatrièmement maintenant, une simple tristesse sur son péché n'est pas aussi la vraie repentance. Il y en a beaucoup qui, parce qu'ils sont tristes sur le mal qu'ils ont fait, ils pensent qu'ils se sont repentis. Ce n'est pas suffisant. Vous pouvez pleurer sur votre péché et ne pas vous être repenti réellement. Ce n'est pas suffisant d'être triste sur son péché. Il faut aller plus loin que cela. Cinquièmement, la vraie repentance n'est pas seulement avoir une conviction de péché. Voyez-vous, quand on réalise qu'on a vraiment péché, et alors là, on se dit, tiens, voilà, oh, là, là, je sais que je suis pécheur, ça y est, alors donc je me suis vraiment repenti. Non, non, ce n'est pas suffisant. On peut avoir une conviction de péché sans s'être repenti encore. Voyez-vous comme c'est subtil. Les gens restent toujours les mêmes. On peut être convaincu de péché, mais sans se repentir. Sixièmement, la vraie repentance n'est pas prendre de nouvelles résolutions. Souvent, les gens disent, ah ben maintenant, par exemple, le 1er janvier, ça y est, on prend de nouvelles décisions, de nouvelles résolutions pour dans sa vie, voyez-vous, on prend de nouvelles décisions. Et les gens confondent cela avec la vraie repentance. Vous pouvez prendre toutes les nouvelles décisions que vous voulez sans vous être jamais repenti. Ce n'est pas suffisant. Prendre de nouvelles résolutions, ce n'est pas se repentir réellement. On peut prendre beaucoup de nouvelles décisions. Les premiers jours, tout va bien. Et après, on retombe dans le même train-train, n'est-ce pas vrai? Les gens, au début, au 1er janvier, ils font tant de promesses. Et ils pensent qu'ils se sont repentis, non? Quelques heures ou quelques jours après, ils recontinuent exactement dans le même train-train de vie. La fin de l'année arrive, et c'est de nouveau la même chose. Ils font de nouveau les mêmes promesses, ils prennent les mêmes résolutions, et ils ne changent pas, ils sont toujours les mêmes. Et ils pensent qu'ils se sont repentis. Ce n'est pas cela, la vraie repentance. D'autres pensent que la vraie repentance, c'est devenir religieux. Il y en a qui pensent que parce qu'ils ont une religion, ou qu'ils prient, ils se sont vraiment repentis. Ce n'est pas suffisant. On peut avoir la plus belle religion du monde et ne pas se repentir, n'est-ce pas vrai? Devenir religieux, ce n'est pas cela la repentance. La vraie repentance, ce n'est pas ça. Parce que vous l'avez remarqué, beaucoup de gens sont religieux, mais leur vie n'a pas changé. Devenir religieux, ce n'est pas s'être repenti sérieusement. D'autres pensent qu'ils se sont repentis lorsqu'ils ont jeûné. Certaines personnes confondent vraie repentance avec le jeûne. Certains, vous savez, quand ils jeûnent, ils pensent qu'ils se sont vraiment repentis. Ce n'est pas suffisant. Vous pouvez jeûner plusieurs jours sans vous repentir réellement. Ah, vous dites, ah bon? Eh oui, mais les pharisiens, ils jeûnaient, ils faisaient beaucoup de choses, mais ils ne s'étaient pas vraiment repentis. Mais les gens confondent cela. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que la vraie repentance? On en est où? Quelième point maintenant? Dixième? Septième? Il y en a plus que ça, non? Huit. Jeûne, huit. Avec jeûner, c'est huit. Alors maintenant, oui. Avec neuvièmement maintenant, la crainte ou la peur. Certaines personnes réalisent que lorsqu'ils ont peur, ils se sont vraiment repentis. Prenez par exemple, vous savez, les matelots. Quand beaucoup de matelots, pour prendre un exemple, en pleine mer, quand la tempête est là, souffle,
L'orage gronde. Combien de matelots dans ces moments-là ont crié « Oh Dieu, oh Dieu, sauve-nous, sauve-nous, et on te donnera notre vie, on te donnera notre vie !» La peur, la crainte, les avaient criés, les ont fait crier. La tempête a passé, l'orage a passé, ces matelots recommencent leur vie, comme si de rien n'était comme avant. Ce n'est pas le cri de la repentance qu'il y a eu dans leur cœur, c'était le cri de la peur. Non pas parce qu'ils s'étaient repentis, c'est parce qu'ils avaient peur qu'ils ont crié. Mais non pas parce qu'ils se sont repentis. Et beaucoup de gens confondent cela. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de changement. Voilà pourquoi ce n'est pas la vraie repentance. Et alors d'autres aussi pensent qu'ils se sont repentis, vraiment, parce qu'ils approuvent mentalement la Bible. Oh, nous sommes d'accord avec tout ce que vous dites. Nous sommes d'accord avec la Bible, avec le Seigneur. Nous sommes d'accord avec tout. Ils approuvent mentalement, mais ils restent toujours les mêmes. Il n'y a pas de changement. L'approbation mentale ne suffit pas. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que la vraie repentance ? Vous pouvez noter cette définition. La vraie repentance, elle est simple. La vraie repentance, c'est changer complètement de direction dans sa vie. La vraie repentance, c'est changer complètement de direction dans sa vie. C'est marcher dans le sens opposé à celui que l'on a suivi jusqu'à présent. Donc la repentance, c'est vraiment un changement radical de vie. Amen. C'est un changement radical où nous détournons de notre passé, de notre péché, de nos passions, de nos idoles, de tout ce qui pouvait nous, de tout ce qui nous tenait avant. Nous nous en détournons une fois pour toutes. Amen. Ça, c'est le signe d'une vraie conversion et d'une vraie repentance. Sinon, si on reste toujours les mêmes personnes, eh bien, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie repentance. Voyez-vous, dans la repentance, c'est la détermination de changer de vie. Alléluia. De nous détourner de tout le mal qu'on avait fait pour vivre entièrement pour Jésus-Christ. Et celui qui prend une telle attitude ne peut pas rester la même personne. Alors maintenant, vous allez dire quels sont les signes d'une vraie repentance. Je vais vous en donner 10 tout de suite. 10 signes d'une vraie repentance. Les 10 signes. Premier signe. Le premier signe, c'est l'abandon complet de tout mal. Le premier signe d'une vraie repentance, c'est l'abandon complet du mal dont on prétend se repentir. Je répète, c'est l'abandon complet du mal dont on prétend se repentir, n'est-ce pas vrai ? La Bible dit, Proverbe 28:13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Voyez-vous, un signe que quelqu'un s'est vraiment repenti, c'est qu'il a abandonné complètement le mal qu'il faisait autrefois, les passions qu'il avait autrefois. J'ai entendu parler, et vous en avez certainement entendu parler, en Amérique, on parle d'homosexuels chrétiens, comme si ça existait. Un homosexuel chrétien. Vous vous rendez compte? Ils se disent chrétiens, alors que la Bible condamne. Dieu, bien sûr, aime l'homosexuel, mais il déteste le péché d'homosexualité. Pourquoi ils se disent chrétiens? Parce que ils n'ont pas abandonné leur péché. Ils ne se sont pas vraiment repentis de leur péché. Ils ont dit, je crois au Seigneur Jésus, mais avant cela, il faut se repentir de son péché, de ses passions, de ses vices. Vous le savez vous-même, ce qui vous tenait avant votre conversion. Si l'un c'était la boisson, il doit veiller à cela après sa conversion. Il doit veiller à sa boisson. Si l'un c'était la cigarette, eh bien après, la cigarette doit totalement disparaître. Il y a quelques années, nous étions en train de discuter dans la Drôme, là, avec des personnes, un couple qui se disait soi-disant chrétien, et qui, dans le témoignage, vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Ah ben nous, avec les gens, là, on a des amis qui sont là, eh bien, eux, ils fument. Et alors, pour pas trop les choquer, eh bien, nous aussi, nous fumons avec eux. Pour soi-disant les attirer au Seigneur. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bon, vous fumez avec ceux qui fument ? Pour les amener au Seigneur ? Pourquoi ne pas boire avec celui qui boit ? Pourquoi ne pas s'enivrer avec celui qui s'enivre ? Il n'y a qu'à se prostituer avec la prostituée, alors, à ce moment-là, pour l'évangéliser. Pourquoi de telles aberrations ? Parce qu'il n'y a pas de repentance. La vraie repentance, le premier signe, c'est l'abandon complet du mal dont on prétend se repentir. Il faut abandonner. Moi, je sais ce qui me tenait avant ma conversion. Et c'est pourquoi je dois veiller après. Et ma décision doit être radicale, d'abandonner ce qui était un déshonneur dans ma vie et un déshonneur à la loi de Dieu. Mais nous ne pouvons pas dire, ah ben, je me suis repenti et on continue la même chose, n'est-ce pas vrai ? C'est très important. Deuxième signe d'une vraie repentance, c'est la restitution. La restitution. Quelqu'un qui a volé, s'il se convertit, est-ce qu'il doit dire maintenant, oh chic, je me suis converti, je n'ai plus à rendre ce que j'ai volé ? Vous croyez que c'est une vraie conversion ? Ça, c'est pas du tout une vraie conversion. Dans certaines réunions, avec un évangéliste en Afrique, après son message, il y a, dans une certaine ville, ils ont ramassé 2 camions de choses qui ont été volées et qui ont été ramenées à la police. Des gens qui s'étaient convertis à Jésus-Christ et ont prouvé leur repentance en amenant à la police, en amenant donc à la réunion, et ensuite ils ont tout emmené à la police, ce qu'ils avaient volé. Ça, c'est un signe de vraie repentance. Amen. Personnellement, j'avais emprunté une petite somme d'argent, ce n'est pas grand-chose, avant ma conversion, lorsque l'on habitait à Vienne, et après ma conversion, j'avais jamais eu l'occasion de rendre cette petite somme. C'était pas grand-chose, 10 francs ou 20 francs, c'était pas grand-chose. C'était un ami qui m'avait prêté ça. Et ça me trottait toujours dans la tête. Et toujours j'avais cette pensée, tu n'as pas rendu cet argent qu'on t'avait prêté. Tu n'as pas rendu cet argent. Tu dois rendre cet argent. Tu dois rendre cet argent. Tu t'es converti au Seigneur, tu dois rendre ce qu'on t'a prêté. Et alors ça me tenaillait comme cela. Et un jour, je ne savais même plus son adresse. C'était même bien des années après. J'ai dit, Seigneur, comment il faut faire maintenant ? Eh bien, je ne sais pas, je sais qu'il habitait à Vienne. Je savais à peu près à quelle adresse il était, mais je ne savais plus s'il était vivant ou quoi, je ne sais plus. Alors, j'ai quand même fait un chèque, un mandat, j'ai envoyé cet argent là-bas, parce que je ne pouvais plus retrouver sa trace. J'ai fait le geste, et je ne sais pas s'il l'a reçu, mais je voulais que de mon côté, il n'y ait plus rien qui me retienne. Je voulais prouver véritablement ma repentance. Amen. Ça, c'est les signes d'une vraie repentance. Zachée, vous connaissez l'histoire de Zachée ? Quand il s'est converti, Jésus a dit, le salut est entré dans ta maison. Et Zachée a dit, si j'ai volé à quelqu'un, je rendrai tout ce que j'ai volé. Et même aux autres, à certains, le quadruple, je leur donnerai. Le quadruple. Il était prêt à restituer. Mes amis, voilà. Le signe d'une vraie conversion. Ça, c'est quelque chose de très important. Sinon, si on reste toujours les mêmes, comment les gens vont-ils croire en nous, n'est-ce pas vrai ? Ils vont dire, celui-là, il croit au Seigneur Jésus, mais il ne rembourse pas ses dettes. Très important. Troisième signe d'une vraie conversion, d'une vraie repentance, c'est le pardon accordé à ceux qui vous ont offensés. Matthieu chapitre 6, 15, Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Donc le signe d'une vraie repentance, c'est que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Et quand quelqu'un n'est pas décidé à pardonner les offenses qu'un autre lui a faites, il faut se demander si cette personne s'est vraiment repentie. Il n'y a pas de fruits. Les fruits d'une vraie repentance sont celles-ci. Je pardonne à celui qui m'a fait du mal. Pourquoi ? Parce que moi-même, j'étais ennemi de Dieu, j'ai fait du mal à Dieu, à la sainteté de Dieu, à la justice de Dieu, j'étais pécheur. Je méritais sa condamnation. Je lui ai demandé pardon et il m'a fait grâce. Et comme Dieu nous a fait grâce, Dieu nous dit, tu dois faire grâce aussi à l'autre. À celui qui t'a offensé, tu dois lui pardonner, comme je t'ai pardonné. Mais quelqu'un qui dit, moi, Dieu m'a pardonné, je sais que Dieu m'a pardonné, et qu'il refuse de pardonner à celui qui a fait du mal, celui-là ne s'est pas vraiment repenti. Sa foi est vaine. Voyez-vous la vraie repentance ? C'est un changement radical dans notre façon de penser, dans notre vie. Tout est transformé. Amen. Quatrième signe. Le quatrième signe d'une vraie repentance, c'est de veiller à ne pas retomber dans son péché. Là, c'est aussi un point très important. Parce que si nous ne veillons pas, au bout de quelques années, vous pouvez vous être repenti d'un certain péché, après votre conversion, tout va très bien. Mais au bout de quelques temps, si vous ne veillez pas, si c'était la tentation de fumer revient. Si c'était la tentation de boire un peu trop jusqu'à un peu être comme ça, si vous ne faites pas attention, cette tentation reviendra. Et si vous aviez telle vice, telle pensée, telle chose qui était là votre problème, si vous ne faites pas attention, vous risquez de retomber. Tandis que la vraie repentance, justement, c'est de veiller à ne plus retomber sur ces travers, sur ces vices que nous avions autrefois, et ne pas jouer avec le péché. Nous ne devons pas jouer avec le péché, mes amis. Et rester ferme jusqu'au bout, en disant, non, je suis délivré de cette passion, Jésus m'en a délivré, c'est fini pour toujours. Je veux glorifier le Seigneur dans ma vie. Amen. Très important. Cinquième signe d'une vraie repentance, c'est d'abandonner les mauvaises fréquentations. En cela, nous voyons si vraiment, si quelqu'un s'est vraiment repenti, quand il abandonne ses mauvaises fréquentations. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Voilà ce que la Bible dit. « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Dans un plateau de fruits, mettez un fruit pourri, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les bons fruits vont guérir, j'allais dire, le fruit pourri? Jamais. C'est l'inverse qui va se passer. Le mauvais fruit va contaminer les autres. Quand quelqu'un s'est vraiment repenti de son péché, il veille à ses fréquentations. Personnellement, j'ai dû perdre beaucoup d'amis, entre guillemets. Ils se disaient des amis, mais quand vous vous êtes donné au Seigneur, il commence à se moquer de vous. Et alors j'ai dû faire un choix là aussi. Je savais que certains amis avaient une mauvaise influence sur moi, sur ma vie spirituelle. Je leur ai parlé du Seigneur, on doit leur parler du Seigneur. Mais s'ils refusent le Seigneur, nous devons leur dire, mon ami, j'ai fait un choix maintenant dans ma vie, je suis le Seigneur. Je ne peux plus suivre le chemin que j'avais avant. Maintenant, je ne peux plus être ton ami, ce n'est plus possible. Je dois suivre le Seigneur et sa parole. Et là, il y a des choix à faire. Si nous continuons d'avoir des amis qui ont une mauvaise influence sur nous, nous allons perdre notre foi. Ils vont nous contaminer. C'est le mauvais fruit qui est là, pourri, et qui va nous contaminer. Mes amis, c'est très important. Si vous êtes amis avec des gens qui ont une mauvaise influence sur vous, c'est très dangereux pour votre foi. Nous devons être amis avec les gens pour leur parler du Seigneur, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais s'ils ne veulent pas du Seigneur, nous devons nous en séparer. Et chercher d'autres personnes qui veulent se convertir. Mais jamais se faire amis avec des gens qui se moquent de Dieu et qui ont une mauvaise influence sur nous. Avec des gens qui jurent, qui boivent, qui mentent, qui se saoulent. Vous ne pouvez plus. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tôt ou tard, vous serez vous-même ce que ces gens sont. S'ils jurent, vous allez commencer à jurer. S'ils boivent, vous allez commencer à boire. S'ils sont grossiers, vous allez devenir grossiers comme eux. D'où l'importance. La vraie repentance dit, Seigneur, c'est fini désormais. Tu me donneras, toi, de nouveaux amis. Des amis qui craignent ton nom. Des frères et sœurs dans la foi qui t'aiment. Et qui ont une bonne influence sur moi. Amen.
Cherchez toujours plutôt des personnes qui ont une bonne influence sur vous. Éloignez-vous de toutes celles qui ont une mauvaise influence sur vous. Ça, c'est le signe d'une vraie repentance. Amen. Sixièmement, c'est la recherche de nouveaux vrais chrétiens pour demeurer dans le vrai chemin. Ça, c'est un autre signe. Non seulement on abandonne les mauvaises fréquentations, mais on a le désir de nous trouver avec des vrais chrétiens pour marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia. Nous nous plaisons dans ce chemin-là, dans cette compagnie-là. Nous choisissons nos amis. Gloire à Dieu. Ça, c'est très important. C'est de choisir ces nouveaux amis pour qu'on puisse demeurer dans la voie du Seigneur, dans l'obéissance à sa parole. Ça, c'est le signe d'une vraie conversion et d'une vraie repentance. Gloire à Dieu. Septièmement, nous devons persévérer dans la repentance. Persévérer dans la repentance, dans la vraie repentance, est le signe d'une... Ah oui, persévérer dans la repentance, c'est le signe d'une vraie repentance. C'est-à-dire que nous devons continuer d'être dans cet esprit de repentance. Amen. Pas seulement le jour de notre conversion, mais tous les jours. La repentance doit être un état d'esprit où on éloigne continuellement de nos pensées, de notre bouche, de nos actions, tout ce qui déshonore Dieu. Amen. Ça, c'est important. Si vous aviez l'habitude de dire des mauvaises paroles, ces paroles doivent disparaître de votre bouche. Si vous aviez l'habitude de voir des images impures, pornographiques ou autres, tout cela doit disparaître. Car ce qui entre par les yeux pénètre dans le cœur et souille la personne. Nous devons veiller à cela. Vous devez veiller. Si vous entendiez des paroles qui vous souillaient aussi et qui ne glorifient pas Dieu, vous n'avez plus à entendre ces choses-là. Ça, c'est le témoignage d'une vraie repentance. Amen. Ceci est très, très important. Donc, c'est persévérer dans la repentance qui montre que vraiment, on s'est réellement repenti. Huitièmement, c'est amener les autres à un changement de vie. Quelqu'un prouve qu'il s'est vraiment repenti quand il témoigne aux autres du salut qu'il a expérimenté et qui les amène à un changement de vie, à la repentance. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est un point très important. Quand quelqu'un maintenant, à son tour, il s'est repenti et il amène les autres à la repentance. Mais sachez bien une chose, vous n'amènerez pas les autres plus loin que là où vous êtes vous-même. Si vous dites toujours des petits mots grossiers, est-ce que vous pourrez dire à l'autre, « Eh là, les mots grossiers, c'est terminé, vous ne pourrez pas. » Même si la personne a des mots grossiers, vous allez être coincé, vous ne pourrez rien lui dire. Si vous buvez un petit peu et que la tête tourne de temps en temps et que celui qui est en face de vous, il a ça, est-ce que vous allez lui dire de changer dans ce domaine-là? Non, vous êtes pris vous-même, vous ne pourrez pas. Et pour la cigarette, la même chose. Si vous fumez vous-même, comment pouvez-vous amener l'autre? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc voyez-vous l'importance là de... On ne peut pas amener les autres plus loin que là où nous sommes nous-mêmes. C'est pourquoi le signe d'une vraie repentance, c'est quand nous-mêmes, on est transformés. Alors après, on peut le dire aux autres. J'étais ceci. J'étais ivrogne. Je faisais ces choses-là. Maintenant, ma vie est transformée. Et vous amenez les autres à la repentance. Ça, c'est le témoignage d'une vraie repentance. Amen. C'est très important. Très important. Et ensuite, neuvièmement, c'est reconnaître ses fautes et prendre la décision d'y renoncer pour toujours. La vraie repentance, c'est cela. Ce n'est pas mettre la faute sur les autres. C'est reconnaître ses propres fautes et les confesser à Dieu et les abandonner. On ne doit jamais justifier son péché. On doit le confesser, reconnaître ses fautes et les abandonner pour toujours. Amen. Ça, c'est le signe d'une vraie repentance. Et pour terminer, dixièmement, c'est haïr son péché. Dans la vraie repentance, il y a la haine du péché. Et obéir ensuite, sans condition et de tout son cœur, au Seigneur Jésus et à sa parole. Dixième signe, c'est haïr le péché. Et ensuite, obéir sans condition et de tout son cœur au Seigneur et à sa parole. Amen. Quelqu'un qui fait cela, il est sûr d'être repenti. Amen. Il hait le péché. Il hait le péché. Nous vivons dans un monde plein de péchés, n'est-ce pas maintenant?
Et il faut surtout faire attention avec ces images à la télévision. Parce que bien souvent, quand on est devant la télé, je le vois, souvent au début, on est choqué par une image impure, qui est un véritable péché. On dit non, c'est pas possible. Mais si nous continuons de regarder cela, avez-vous remarqué après, un mois, deux mois, trois mois après, il n'y a plus rien qui vous arrête? Vous pouvez voir une femme nue et tout ça, sans rien, sans être choqué. Ah, vous dites, c'est la marque, c'est une réclame. Ça dure une seconde, deux secondes, il y a une femme nue qui passe devant vous. Alors qu'au début, vous étiez scandalisé. Comment? C'est pas possible. Ferme ça, tout de suite. Je ne veux pas voir ça. Mais si on ne prend pas de décision, la femme nue, elle vient. Ah, c'est pas longtemps, c'est une seconde, c'est la réclame. Voyez-vous, on commence à s'habituer au péché. Il n'y a plus cette haine. Mes amis, si nous ne détruisons pas le péché nous détruira. C'est très grave, très important. Nous devons haïr le péché. Nous devons être choqués par le péché. Si nous ne sommes plus choqués par le péché, c'est très grave pour notre vie spirituelle. Nous devrions être choqués par quelqu'un qui jure, par une image impure, par quoi que ce soit. Nous devrions être choqués. Et dire, arrête ça. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus entendre ça. C'est fini. Il faut que nous soyons choqués. Si nous ne sommes pas choqués, mes amis, alors nous retournons en arrière. Nous sommes des rétrogrades. Et c'est très dangereux pour notre foi. N'est-ce pas vrai? Mais on devrait être choqués. Seigneur, je ne veux pas que cela passe devant mes yeux. Je ne veux pas entendre cela. C'est un bon signe de santé spirituelle quand on est choqué par le péché. Et que tout de suite, lorsqu'on a eu le sentiment d'avoir péché, tout de suite on demande pardon au Seigneur et on ne veut plus recommencer. On ne s'habitue plus à cet état de choses. Amen. Mes amis, quelqu'un qui s'est repenti comme cela, c'est un véritable changement, une véritable transformation. Amen. Voilà ce que Jésus voulait dire. Repentez-vous. Donc changez radicalement de vie. Abandonnez tout ce qui déshonore Dieu. Un jour, on a demandé aussi à quelqu'un, qu'est-ce que c'est que la conversion, la repentance? Alors, cette personne, c'était une jeune fille, je crois, qui a dit, eh bien, voilà ce que c'est. Eh bien, autrefois, eh bien, on marchait sur le chemin qui mène en enfer. Je marche en enfer, je vais en enfer, je marche en direction de l'enfer. Et maintenant que je me suis converti, j'ai changé de chemin, je marche vers le ciel, je marche vers le ciel, je marche vers le ciel. Alléluia! C'est tout simple. C'est un changement de vie. C'est quitter le chemin large pour aller sur le chemin étroit. Alléluia! C'est la détermination d'abandonner tout ce qui déplaît à Dieu. Mais si notre vie n'est pas changée, mes amis, nous ne sommes pas vraiment convertis ni sauvés. Amen. Que le Seigneur nous aide. Comme Paul, partout où il allait, il prêchait la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi un tel message peut changer les ivrognes, peut changer les êtres impurs, les immoraux, ceux qui mentent, ceux qui volent. Voilà ce qu'un chrétien, c'est celui dont la vie a été transformée. Il était dans le péché autrefois, mais maintenant il a un témoignage. Il était un bandit, un gangster, un voleur, un impur. Mais maintenant, il est changé. Alléluia! Et dans sa maison, il a tout balayé. Tout ce qui déshonore Dieu dans sa maison, toute image impure, toute chose impure doit être balayée. Non seulement dans notre cœur, mais dans notre maison aussi. Alléluia! Et quand les autres viendront, ils verront, ah, celui-là, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. On sent quelque chose dans cette maison qui n'est pas comme les autres maisons. Il doit y avoir une différence entre la maison d'un chrétien et la maison d'un non-chrétien. Amen! Et cela, c'est la vraie repentance. Cette détermination de nous détourner de tout mal pour suivre le Jésus-Christ. Et l'aimer de tout notre cœur. Amen.